Bien. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler donc de deux pratiques, deux notions qu'on évoque souvent dans le bouddhisme, mais qu'on évoque souvent pas tout à fait correctement, notamment en ce qui concerne la tradition du Theravada. Ce sont deux notions qu'on trouve dans toutes les écoles bouddhiques, mais qui vont pas forcément avoir tout à fait la même implication ou le même sens dans toutes les traditions bouddhiques. Donc je citais tout à l'heure deux termes de la langue pali, metta et karuna. En sanskrit c'est maitri et karuna. Y en a-t-il parmi vous qui n'ont jamais entendu ces deux mots? Maitri karuna, metta karuna, ça vous dit rien? Alors peut-être que vous connaissez mieux les termes dans les traductions qui leur est habituellement donnée. Et j'aimerais que les autres, ceux qui connaissent Metta et Karuna, me donnent la traduction la plus commune.
La bienveillance.
La bienveillance et la compassion. Ou l'amour et la compassion. Première chose que je voudrais évoquer, c'est justement la traduction de ces termes, parce que bienveillance, ça va encore, mais souvent vous trouverez amour, voire amour universel. C'est comme ça que traduit, par exemple, dans ce petit livre très connu, Valpola Raoula, l'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens. Il y a un texte qui est vraiment fondamental pour comprendre Metta, et lui le traduit par l'amour universel. Et le terme de compassion, amour universel et compassion, par lequel on traduit Karuna, sont deux termes qui viennent pas du bouddhisme, mais du christianisme. Bien évidemment, tout simplement parce que le bouddhisme n'a jamais employé le français. Et donc les traducteurs occidentaux ont essayé de trouver dans le vocabulaire à leur disposition, le vocabulaire occidental, des termes qui leur semblaient le mieux correspondre à ce que pouvaient être metta et karuna dans les langues indiennes, dans la langue pali. Ces deux traductions sont malheureusement fautives. D'une part, parce qu'effectivement, metta, ça n'est pas de l'amour, et karuna, ça n'est pas de la compassion. Et puis, ils sont fautifs surtout parce qu'elles vont introduire dans le bouddhisme des choses qui n'y s'y trouvent pas. Et en introduisant ces idées qui viennent plutôt du christianisme, elles vont masquer ce que le bouddhisme, lui, entend par metta et karuna. Et donc, ça va faire manquer une dimension du bouddhisme, en la remplaçant par quelque chose qui vient plutôt du christianisme. Donc c'est cela que je voudrais d'abord vous montrer en expliquant les deux mots, et ensuite en donnant un certain nombre de citations, de textes du canon pali, pour expliquer comment ces deux notions sont envisagées dans la tradition du Theravada, qui s'appuie sur le canon pali, parce qu'elle sera différente d'autres traditions bouddhistes, notamment de celles qui se réclament du Mahayana. Alors d'abord les deux termes. Metta, maitri en sanskrit, c'est la qualité d'un dieu, d'un vieux dieu de la tradition védique qui s'appelle Mitra. Le dieu Mitra a pour qualité maitri. Et le dieu Mitra, c'est celui qui est le garant de l'équilibre entre les hommes, du respect des contrats, de l'équité entre tous les êtres. Donc maitri, metta, ça a pris le sens plus général dans la langue indienne, dans les langues indiennes, de l'amitié. Et quitte à employer un terme de notre langue courante, il vaudrait mieux le traduire par amitié que par amour. Parce que l'amour est souvent exclusif, il concerne souvent une personne, il est souvent aveugle, alors que l'amitié, en général, quand on l'oppose à l'amour, c'est pour dire que, voilà, quand on est ami de quelqu'un, on le prend tel qu'il est, sans le juger. Dans l'amour, vous connaissez toute la littérature sur l'amour, où on exagère les qualités d'une personne, voire on transforme ses défauts en qualités, etc. Donc il y a souvent associé à l'amour dans notre culture occidentale, une idée d'excès, d'exagération, d'exclusivité, etc., qui convient pas du tout au terme de metta. amitié serait plus en accord avec l'idée du terme indien. Cela dit, tout à l'heure on a parlé de bienveillance, et c'est vrai que ça pourrait être une meilleure traduction. En fait, on ne trouvera pas un mot qui équivaudra exactement à metta. Je vais vous proposer un couple de mots, et pareil pour karuna, je vais vous proposer un couple de mots qui se corrigent l'un l'autre, se nuancent l'un l'autre et permettent d'arriver plus précisément à ce que semblerait vouloir dire, ce que pourrait vouloir dire le terme dans notre langue à nous. Donc la bienveillance, parce que quand on cultive metta, et je dis exprès on cultive et non pas on éprouve, quand on cultive metta, c'est parce que l'on souhaite le bien. Donc bienveillance, vous veillez au bien de, hein, vous êtes attentif au bien de. Donc il y a cette idée, effectivement, de souhaiter, de faire en sorte que des personnes éprouvent quelque chose de bon ou de bien. Mais ce qui est important aussi dans cette idée de maîtrise et de metta, c'est ce que je disais à propos du dieu Mitra, c'est qu'il veille à l'équité. Et que ce soit chacun qui puisse bénéficier du bien ou du bon, sans distinction, sans privilège, sans favoritisme, tous les êtres de la même manière. Donc peut-être que pour rendre ces deux idées, je préférerais traduire par bienveillance équitable ou équité bienveillante. Dans un cas ou dans l'autre, bon, soit on insiste sur le côté on souhaite le bien des êtres, soit on souhaite que tous les êtres soient traités de la même manière. Je pense que les deux termes sont nécessaires pour rendre très précisément ce que dit metta dans la langue employée dans les textes bouddhiques. Donc on verra tout à l'heure, je vous donnerai quelques extraits de textes qui vont montrer effectivement qu'il y a cette idée d'équité, d'équilibre, et comment elle peut être mise en œuvre. Je vous disais, quand on cultive metta plutôt que quand on éprouve metta. Le problème pour la traduction de karuna, quand on parle de compassion, c'est qu'on fait de ce terme la représentation d'un sentiment. Quelque chose que l'on éprouve, justement. Et l'amour, c'est aussi quelque chose que l'on éprouve. Et en français, quand on dit on éprouve un sentiment, c'est un mot extrêmement fort. Éprouve, c'est être mis à l'épreuve, c'est subir une épreuve. Être éprouvé, c'est être transformé, mais généralement, c'est pas compris comme positif. C'est être modifié, c'est être altéré. Comme on peut être altéré par la colère, on éprouve de la colère vis-à-vis de quelqu'un, on est transformé et c'est la colère qui devient maîtresse de vous-même. Comme on peut être emporté par l'amour. Donc il y a dans cette idée en Occident d'éprouver des sentiments quelque chose qui au regard du bouddhisme est très négatif. Puisque le bouddhisme vise à la maîtrise de soi. Et d'une certaine manière d'ailleurs, je cherche désespérément un mot dans la langue bouddhique qui voudrait traduire le mot sentiment. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. Le sentiment, ce n'est pas une dimension de la psychologie humaine qui est réellement prise en compte par le bouddhisme. On va parler des constructions mentales, on va parler des souillures mentales, on va parler des les effluents mentaux. Mais il n'y a rien qui corresponde strictement au sentiment.
Qu'est-ce qui en découlerait ? Ça pourrait découler
quoi ? Ça veut dire simplement que ce que nous valorisons tant dans notre civilisation occidentale, dans la lecture qu'on fait de l'esprit, où on distingue ce qui relève de la raison de ce qui relève des sentiments en les opposant, le bouddhisme ne fait pas cette distinction. Le bouddhisme, il fait une distinction entre des états mentaux qu'il juge sains, efficaces, qui permettent de se libérer de la souffrance, et des états d'esprit qui sont malsains, inefficaces, et qui nous maintiennent dans le samsara. Mais il n'y a pas cette dimension d'opposition entre raison et sentiment, de quelque chose qu'on éprouverait, de quelque chose qu'on maîtriserait. D'une certaine manière, ce que l'on éprouverait, c'est plutôt ce qui relève du malsain, de ce qu'on appellera le malsain dans le bouddhisme, et ce que l'on maîtriserait, c'est ce qui relève plutôt de l'efficace.
Et par exemple, pour un parent et son enfant, qu'est-ce qu'il va y avoir comme...
Alors, ça ne veut pas dire que dans les langues indiennes, le vocabulaire des sentiments n'existe pas. Oui. Ça veut dire que dans le bouddhisme, on ne va pas considérer cela. Ce qui va intéresser le bouddhisme, c'est pas de savoir si un parent aime ou n'aime pas son enfant, mais si le sentiment qu'il éprouve pour son enfant est efficace ou inefficace. Est-ce que ça va être dommageable pour les deux, ou au contraire profitable pour les deux? Donc on ne lit pas l'esprit de la même manière. Donc ça aussi, c'est ce qui fait que c'est dangereux d'employer des termes qui nous sont familiers dans notre langue occidentale, et notamment dans la religion chrétienne, parce que il y a tout un développement du sentiment dans le christianisme, et l'amour est privilégié. C'est pas l'amour passion, c'est pas le eros, c'est pas l'amour qui désire, au sens fort du terme, c'est l'agapé, ça peut être aussi l'amitié, la philia. Méta, dans ce cas-là, ça serait plus par la philia, ce qu'on entend en grec par philia, ce qui a donné la philosophie. C'est plus ce qui relève d'une considération amicale, mais pas d'une passion. Et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du même ordre. Donc il vaudrait mieux ne pas employer un mot qui risque de nous faire glisser vers un sens qui n'est pas celui des mots en pali ou en sanskrit. Donc quand on parle de compassion, là on est à fond, si j'ose dire, dans le sentiment. On est dans la passion. Et la passion, au départ, c'est ce qu'on subit et c'est ce qui même s'y fait souffrir. La passion du Christ, c'est la souffrance du Christ. Et donc, quand vous parlez de compassion, c'est le même terme d'ailleurs que la sympathie. Compassion, ça vient du latin, sympathie, ça vient du grec, mais c'est exactement la même chose. Ça correspondrait dans les langues indiennes, le préfixe à sam, qui a le même sens que le con latin ou le signe grec. Et puis, patior en latin ou pathos en grec, ça correspond au sanskrit ou pali papa, qui a la même étymologie. Mais voilà, le mot qu'on traduit par compassion, c'est karuna. C'est pas sampapa. Sampapa, c'est un mot que je ne connais pas, qui n'existe pas dans la littérature pali. Donc le mot compassion tel qu'on l'emploie en Occident n'existe pas dans la langue pali. Qui correspondrait strictement à ce qu'on appelle la compassion. Et compassion, c'est l'opposé de l'action. La passion, c'est l'opposé de l'action en français. Quand vous êtes passif, vous n'êtes pas actif. Or, karuna, ça a la même racine que karma. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de l'action, de ce que vous faites. De ce que vous faites. La karuna, c'est pas quelque chose qu'on éprouve, c'est quelque chose que l'on fait. C'est pas de l'ordre du sentiment, c'est de l'ordre de l'action. Action mentale, action verbale, action gestuelle. Puisqu'on a toujours cette idée dans le bouddhisme que l'action se manifeste à travers le corps, les gestes, à travers la voix, les paroles, et à travers les pensées, l'esprit. Mais la karuna, metta karuna sont des mots féminins, la karuna, c'est une action, c'est une activité. Donc c'est quelque chose que vous faites, c'est pas quelque chose que vous subissez. Maintenant, comme pour metta, finalement, étymologiquement, le mot parle plus d'équité. Et j'ai rajouté cette idée de bienveillance, qui n'existe pas étymologiquement dans le mot, mais qui est manifeste dans l'usage qu'on en fait. Donc dans karuna, la racine étymologique, c'est l'action, par opposition au sentiment. Mais il y a une dimension qui n'est pas apportée par la recherche étymologique du mot, c'est la dimension qui est liée à l'idée de souffrance, ce que rend le terme de compassion en français. Il y a bien une idée d'un certain rapport à la souffrance dans karuna, mais ce n'est pas un rapport d'imitation de la souffrance, ou de supporter la souffrance d'autrui, ou d'éprouver la souffrance d'autrui, comme on a dans le terme de compassion, où l'exemple type de la compassion, c'est le Christ, qui souffre pour tous les êtres, et qui prend sur lui la souffrance des êtres. Je suis l'aide de Dieu qui porte le péché du monde. Ça, c'est la véritable compassion. Souffrir avec les autres et souffrir pour les autres. Mais ça n'est absolument pas ce que veut dire karuna.
Est-ce qu'on peut prendre par exemple, parce que je sais que les anciennes générations dans le christianisme, tombaient malades, il fallait endurer, quoi.
Oui.
Voilà.
L'idée d'endurance. Mais là, c'est pas Karuna ne cherche pas à partager la souffrance d'autrui. Il n'y a pas du tout cette idée-là. Il y a, encore une fois, si vous aviez une idée de partage, vous auriez le préfixe sam. Il n'y a pas sam. Okay. Donc Karuna, c'est pas une idée de partage. Du tout. Dans le mot. J'ai pas fini. En français, on a un terme dans les langues occidentales européennes, puisqu'à l'origine, en fait, c'est un Allemand qui a inventé ce mot-là, au XIXe siècle. Il y a un mot qui a été fabriqué sur pathos, mais avec un autre préfixe. C'est pas sympathie, c'est pas la compassion, c'est l'empathie. Empathie, donc le préfixe en, dans ce cas-là, ça veut dire que l'on rentre dans la souffrance. Donc on ne partage pas la souffrance, mais on rentre dans... Et qu'est-ce que ça voulait dire pour ce... C'est un psychologue du début du XIXe siècle qui a inventé ce terme-là, qui dit, en fait, on se met à la place de l'autre, on comprend la souffrance de l'autre, mais on ne la partage pas. On la comprend. Or, tout l'enseignement du bouddhisme est fondé sur cette idée qu'il faut comprendre le mécanisme qui mène à dukkha. Connaître les conditions d'apparition de dukkha, qu'on traduit généralement par la souffrance, même si ce n'est pas là aussi une très très bonne traduction, hein, trop réduite, trop simplifiée. Hein. Mais empathie, ça rendrait mieux cette idée que lorsqu'on pratique Karuna, on agit parce que l'on comprend la souffrance d'autrui.
C'est pour la soulager alors?
Pour la soulager dans l'optique bouddhique. je vais y revenir plus en détail. C'est là où il va y avoir une grosse différence aussi entre le Theravada et le Mahayana. De quelle souffrance parle-t-on? C'est dukkha dont on parle. Donc c'est pas dukkha, c'est pas la souffrance de ce qui fait simplement mal. Dukkha, c'est la souffrance y compris dans ce qu'on ressent comme étant agréable. Ce qui se manifeste comme insatisfaisant, y compris dans le plaisir et dans le bonheur. Donc lorsque vous pratiquez Karuna, ce n'est pas simplement pour soulager la souffrance des êtres. C'est ce que vous faites dans la perspective bouddhique pour leur permettre d'échapper à toute insatisfaction. Il y a une expression qu'on trouve dans le Mahayana, mais qu'on ne trouve pas dans le Theravada, où on souhaite que tous les êtres échappent à la souffrance et aux racines de la souffrance. La distinction bien connue, vous savez, il vaut mieux, plutôt que de donner du poisson à quelqu'un, lui apprendre à pêcher. Bon ben là, plutôt que de soulager les souffrances d'autrui, il faut mieux lui permettre qu'il trouve en lui-même le moyen d'extirper les racines de ce qui le fait souffrir. Or c'est ça la vocation de l'enseignement bouddhique. C'est de permettre à chacun de déraciner les causes de la souffrance. La mauvaise idée qu'on a de soi-même, la mauvaise appréhension qu'on a des phénomènes, tout ce qu'on appelle l'illusion, qui se manifeste au-delà par les tendances habituelles de l'avidité et de l'aversion, justement du désir de s'approprier et du refus, du rejet de ce qui nous fait souffrir, etc. En fait, la karuna, c'est ce que le Bouddha exprime quand il transmet son enseignement. Dans ce cas-là, on parle de la Maha Karuna, la grande Karuna. Donc, comme tout à l'heure, je parlais d'équité bienveillante ou de bienveillance équitable, je vais vous proposer un double terme pour traduire Karuna. Il y a l'empathie active. Parce que vous comprenez la souffrance d'autrui, vous êtes dans l'action. Vous êtes poussé à agir. Vous agissez parce que vous comprenez. Donc effectivement, pour soulager les êtres. Mais le Bouddha n'est pas celui qui distribue de la nourriture à ceux qui ont faim. C'est pas celui qui donne des vêtements à ceux qui ont froid. Il n'y a pas d'exemple vraiment dans les textes de cette activité qui serait plutôt celle du Christ. Il est celui qui donne un enseignement pour permettre à chacun d'échapper à la souffrance et aux racines de la souffrance. Et quand on parle pour la première fois de la karuna à propos du Bouddha, c'est quand, juste après son éveil, il hésite à enseigner. Sa première réaction, c'est de dire « Ce que je viens de découvrir est tellement difficile à comprendre, tellement à contre-courant, Ça demande des efforts qui vont tellement à l'encontre de tout ce que les gens font que jamais ils voudront me croire, jamais ils auront assez confiance en moi pour s'engager dans une conversion aussi totale. Donc pour moi, ça ne sera que fatigue. On a failli ne rien avoir du tout. Et c'est Mahabrahma, le plus grand des dieux, qui descend du ciel en disant « Mais dans tous les gens qui nous entourent, il y en a quand même quelques-uns qui vont comprendre. » Quelques-uns. Et rien que pour ce quelques-uns-là, ça vaudrait coup que tu enseignes. Et à ce moment-là, se manifeste la Mahakaruna. Et le Bouddha rentre dans ce qu'on appelle la carrière du Bouddha, Bouddha Chariya. Et qu'est-ce que c'est que la carrière du Bouddha? C'est l'enseignement. Et là, il va se donner, il va s'activer, si je puis dire, parce qu'il a compris la souffrance d'autrui. Et les racines de la souffrance d'autrui. Et pour soulager les êtres de cette souffrance, il va leur enseigner la voie de la libération de la souffrance. Donc la karuna, c'est pas s'apitoyer sur les êtres. Certains auteurs, comme Mohan Vijayaratna, qui est quand même un de ceux qui a le plus traduit de textes pali en français, traduit très souvent karuna par pitié. C'est très mauvaise traduction. C'est pas parce que c'est Mohan Vijayaratna qu'il faut le lire sans œil critique. C'est une très mauvaise traduction. Ça n'est surtout pas de la pitié, karuna. On n'éprouve pas un sentiment de condescendance, de supériorité, donc, vis-à-vis des êtres qui souffrent. La pitié, c'est ça, quand même. Il y a un sentiment de condescendance et de supériorité quand vous éprouvez de la pitié pour quelqu'un. D'une certaine manière, il vaudrait mieux traduire presque ça par charité, si on voulait vraiment employer un mot qui vient du christianisme, parce que dans le christianisme, la charité, c'est ce que vous faites pour autrui. Sauf que, ben voilà, c'est pas dans le même état d'esprit. Hein. Vous le faites dans le christianisme parce que vous êtes tous enfants de Dieu. Dans le bouddhisme, la karuna s'exprime parce que vous connaissez la souffrance. Donc, dans le christianisme, c'est lié à un sentiment d'appartenance à une même famille. Dans le bouddhisme, la karuna, elle naît et elle se pratique en liaison avec une connaissance. Pas un sentiment, encore une fois. Avec une connaissance. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment pratiquer karuna, si vous voulez vraiment manifester karuna, vous ne pouvez le faire que si vous acquérez une certaine connaissance de la souffrance. Et une connaissance qui n'est pas d'ordre intellectuel, bien sûr, mais qui vient de votre expérience. Pas d'expérience de la vie quotidienne, mais une expérience née de la pratique dans l'assise. D'une observation du caractère dukkha des phénomènes. Hein? En quoi ces phénomènes-là sont essentiellement, par essence, par nature même, objet d'insatisfaction. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Le bouddhisme et le christianisme ont des différences. Donc employer le vocabulaire du christianisme au bouddhisme, c'est toujours dangereux. Surtout que ça nous est plus familier, malgré tout. Donc pour nous, sans même s'en rendre compte, on va christianiser le bouddhisme. Mais du coup, ça nous fait manquer un certain nombre des caractères propres du bouddhisme. Donc il faut vraiment être attentif à ça. Donc une bienveillance équitable, une activité empathique ou une empathie active, agissante, comme vous voulez, je ne sais pas. C'est des propositions. Je les ai proposées la semaine dernière pour la première fois. Pendant très longtemps, j'ai employé les mots que tout le monde employait, donc Métta, ça faisait longtemps que je préférais bienveillance. Amour, ça m'a toujours beaucoup gêné. Je n'ai pas du tout apprécié d'employer ce terme-là. Mais pour remplacer compassion, j'ai mis beaucoup de temps à trouver. J'arrivais pas. Et c'est vrai que le terme d'empathie, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Si on veut garder toujours le pathos, hein, comme passion, pathos, pour évoquer la souffrance. Mais le problème, c'est que le mot karuna, il n'y a pas dans le mot karuna le mot souffrance. Il y a le mot activité. Karuna, c'est de l'activité. Donc il ne faut pas oublier cette dimension d'activité. Ça n'est pas un sentiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on éprouve. Ce n'est pas de la souffrance qu'on partage. C'est ce que l'on fait parce qu'on a compris la réalité, le caractère profondément conditionné de la souffrance.
Comment aider donc l'autre à déraciner ce qui le fait souffrir
en lui transmettant l'enseignement du Bouddha?
Parce que, oui, parce qu'en fait, tout. Quand on
dit. Il n'y a pas d'autre chose à faire.
Mais comme c'est une action, comme c'est ce que l'on fait, comment est-ce qu'on peut transmettre
à, enseigner l'enseignement du Bouddha, vous pouvez le faire par la parole, ce que je fais.
On peut quand même utiliser, d'accord.
Et vous pouvez le faire par l'exemple.
J'avais pas compris.
Et vous pouvez le faire par l'exemple.
Par l'exemple.
Par l'exemple. Et en développant vous-même un certain nombre de qualités qui se manifesteront et qui rayonneront autour de vous.
Oui.
On va en parler, hein, parce que c'est la suite. Comment est-ce qu'on pratique Metta et Karuna? Parce que ce sont des pratiques. Ce ne sont pas des sentiments, ce sont des pratiques. Après, dans les textes du Theravada, ces pratiques-là ne vont pas être présentées de la même manière que dans les textes du Mahayana. Donc c'est là où je voudrais m'insister sur ce qui est spécifique au Theravada. D'abord, le terme de Karuna, qui est si employé dans le Mahayana, n'est quasiment jamais évoqué dans le Theravada. Ça, c'est une première chose. En fait, on parle de Karuna que à deux occasions, vraiment, de façon régulière. D'abord, pour désigner l'enseignement du Bouddha, enfin, ce qui génère l'enseignement du Bouddha, cette Maha Karuna, cette grande empathie qui naît au moment de l'éveil. Et finalement, cette Karuna-là, elle ne se pratique pas dans le sens où on ne s'y entraîne pas, on ne s'y exerce pas, puisque c'est une manifestation de l'éveil. C'est quelque chose qui apparaît naturellement chez les êtres éveillés. Donc c'est pour ça qu'on parle de Maha Karuna. Donc dans le Mahayana, on va évoquer cette Maha Karuna comme quelque chose qui doit être travaillé durant toute la voie du Bodhisattva. Mais dans le Theravada, on n'enseigne pas cette voie du Bodhisattva et on n'enseigne pas ce travail d'amplification de cette Karuna-là. Parce que le Theravada ne propose pas cette voie du Bodhisattva. Donc c'est normal que ça n'apparaisse pas dans cette définition. Donc en fait, le seul cas où Karuna apparaît dans les textes du canon Pali, donc de l'école Theravada, c'est dans une pratique qu'on appelle les quatre demeures de Brahma. Ou les quatre pensées sans limite, incommensurables. Où vous allez retrouver Metta, Karuna et deux autres termes que sont Mudita, qui est, qu'on pourra traduire par la joie participative. On dit joie sympathique, mais il n'y a pas tos dedans, donc c'est toujours gênant. On pourrait peut-être dire la joie participative, le fait de se réjouir avec autrui ou du bonheur d'autrui. Donc, Metta, c'est que vous souhaitez, vous veillez à ce que tous les êtres éprouvent du bien, et avec Mudita, vous vous réjouissez, et vous, d'une certaine manière, là, vous partagez le plaisir, le bonheur, le bien éprouvé par autrui. Et puis la quatrième pensée, la quatrième pratique, c'est celle, alors en pali c'est Upekkha, et en sanskrit Upekkha, une petite différence d'orthographe, moins grande qu'entre Metta et Maitri. Et généralement, ce terme-là est traduit par équanimité, ou étymologiquement, on pourrait dire indifférence, ou indifférenciation. Donc ça rejoint ce que j'ai dit à propos de l'équité de Metta. C'est le fait de considérer tous les êtres de la même manière, mais indépendamment de la bienveillance. Là, c'est vraiment l'équilibre de traitement de toute personne, de tout être, indépendamment de lui souhaiter du bien ou de lui souhaiter qu'il échappe au mal. Donc, on traduit ça souvent par équanimité. Parce que indifférence, il y a une mauvaise connotation en français courant. Donc, on préfère le terme d'équanimité. Donc, cette pratique des quatre demeures de Brahma, elle est régulièrement évoquée dans les textes du canon Pali. Donc on va retrouver Metta et Karuna dedans. En dehors de ça, Karuna, quasiment jamais évoquée, sauf pour désigner une des qualités du Bouddha. Mais Metta va apparaître dans beaucoup d'autres textes. Pas seulement dans la présentation des quatre demeures de Brahma. Et c'est une qualité qui est souvent mise en avant dans la tradition du Theravada. Donc là aussi, je vous donnerai quelques exemples de textes, mais j'ai d'autres choses à dire avant. Donc tout ça est pour dire que, d'une part, si le Mahayana insiste sur Karuna, Le Theravada, lui, va insister sur metta. Et l'insistance qu'on a sur metta, il va y avoir une richesse de metta qui ne se résume pas simplement à ce qu'on en dit dans la pratique des demeures de Brahma. C'est quelque chose de plus complexe, de plus varié, de plus large que simplement l'exercice qu'on appelle les quatre demeures de Brahma. Avant de révoquer ça, je voudrais faire allusion à l'enseignement qu'on a actuellement en Occident de la pratique de metta. Si vous êtes un petit peu familier de certaines associations qui diffusent l'enseignement de Vipassana, qui ne sont pas forcément théravadines, souvent qui viennent d'un développement de l'enseignement de Vipassana qui s'est manifesté d'abord aux États-Unis, et puis par l'intermédiaire de l'Angleterre arrive maintenant en Europe continentale. À côté de la pratique de Vipassana, généralement en fin de session de pratique de Vipassana ou en fin de retraite de Vipassana, on accorde un moment à la pratique de metta. Je veux préciser tout de suite que cette pratique-là est absolument pas traditionnelle. C'est quelque chose qui a été mis en place par un instructeur de Vipassana, bien particulier, qui s'appelle Goenka, qui est un Indien né en Birmanie, qui s'est fait connaître pendant tout le XXe siècle pour avoir développé un nombre considérable de centres d'enseignement et de pratiques de Vipassana, qui a eu beaucoup de succès en Inde et aux États-Unis. Et c'est lui qui a souhaité associer Metta à Vipassana. Si vous regardez ce qui se passe, c'est d'autres enseignements, enseignants de Vipassana, comme en Birmanie Mahasi Sayado, ne préconisent pas forcément la pratique de Metta. Si vous regardez du côté thaïlandais, l'école à laquelle nous nous référons plus souvent ici à Vivekarama, celle d'Ajahn Chah, il évoque jamais la pratique de Metta. C'est une particularité de Goenka au départ. Goenka ne l'a pas lui-même reçu d'une tradition antérieure. C'est plutôt une de sa propre initiative. Et on peut penser, en tout cas c'est comme ça que c'est compris par certaines personnes de la communauté américaine, que Goenka a voulu insister sur Metta parce qu'il a pensé que les Occidentaux en avaient besoin. Plus que les Orientaux, que les Asiatiques. Et donc généralement, on dit que c'est pour deux raisons principales. La première, surtout quand il s'adressait à un public anglo-saxon, parce que la culture protestante est une culture de haute culpabilité, et que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Et que quand on ne s'aime pas soi-même, on ne se fait pas confiance, et on a une motivation qui n'est pas assez puissante. Et donc il fallait redonner confiance aux gens, et donc lutter contre ce complexe de culpabilité si fort dans les sociétés chrétiennes et particulièrement protestantisme américain, et que metta, comme on commence toujours par développer metta pour soi avant de le développer pour les autres, ça permettait de favoriser cette confiance en soi qui est absolument indispensable à une pratique. Je vous ai évoqué la dernière fois, bon tout le monde n'était peut-être pas là, une des raisons pour lesquelles on pratique la discipline, les préceptes, c'est pour ne prouver aucun regret, aucun remords. Tous les sentiments négatifs qu'on peut éprouver vis-à-vis de soi sont des obstacles sur la voie. Tous les sentiments positifs qu'on peut développer à l'égard de soi, s'ils n'arrivent pas à se développer jusqu'à l'orgueil, sont bons pour la pratique, sont des conditions favorables à la pratique. Donc là, d'une certaine manière, metta, c'est un outil pour aider les Occidentaux à s'aimer eux-mêmes et arrêter de ruminer un sentiment de culpabilité qui a été un peu trop imposé dans la société en général. L'autre point important pour ce développement de metta, et encore une fois pour les Occidentaux, c'est pour lutter contre l'individualisme. Et là, en fait, on utilise cette pratique de metta comme on l'utilise dans les écoles du Mahayana, ce qu'on appelle la dédicace, le transfert des mérites. Ça, c'est une pratique qui est tout à fait courante dans les écoles du Mahayana, à l'issue d'une pratique, on va dédier les mérites à tous les êtres. Et cette cérémonie, ce rituel, n'existe pas de façon aussi ritualisée et aussi stricte dans la tradition du Theravada. Le transfert de mérite existe aussi, enfin le transfert de bienfaits existe aussi dans la tradition Theravada, mais généralement il ne se fait pas au profit de tous les êtres, il se fait au profit d'êtres bien particuliers, bien précis.
Lesquels ?
Généralement des membres de sa famille défunt. C'est souvent comme ça qu'il est vécu. Donc il ne faut pas dire que le transfert de mérite n'existe que dans le Mahayana, il existe aussi dans le Theravada, mais la particularité du Mahayana sur la voie du Bodhisattva, c'est qu'on dédie ses mérites à tous les êtres. Et ça, c'est pas effectivement ritualisé de cette façon-là dans le Theravada. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément égoïste dans le Theravada, mais il n'y a pas cette cérémonie, ce rituel aussi formalisé qu'il existe dans le Mahayana. Donc comme aux États-Unis, et dans l'esprit même d'un enseignant comme Goenka, il y a cette volonté de dépasser les différences d'école au sein du bouddhisme et de proposer quelque chose qui serait un peu un fond commun à tous les bouddhismes, il y a de fortes chances aussi que cette pratique de metta, dans un cadre qui est plutôt théravadine, soit une façon de remplacer cette dédicace à tous les êtres, puisque là, on diffuse la bienveillance à tous les êtres. Donc c'est quelque chose qui pourrait correspondre. Mais ça n'a pas cette pratique dans le Theravada traditionnel, n'a pas du tout cette valeur-là. Là encore, c'est une valeur qui lui est accordée depuis quelques décennies. C'est quelque chose de très récent. Ça n'a absolument rien à voir avec l'utilisation de metta dans la tradition theravadine. Ça vient vraiment, c'est une adaptation qui est propre à la diffusion de vipassana dans l'Occident.
Et notre dédicace, elle correspond à quoi ?
Quelle dédicace ?
Celle que nous pratiquons ici.
Alors celle que nous pratiquons, nous, elle vient du Theravada. Elle vient vraiment du Theravada, mais ça n'est pas, c'est pas dans les mêmes termes que la dédicace des bienfaits telle qu'elle est pratiquée dans le Mahayana, où l'on dédie ses mérites à tous les êtres. Là, on ne dédie pas ses mérites à tous les êtres, on souhaite que tout ce qui est auspicieux se développe, que toutes les divinités nous protègent, et que, grâce à tous les pouvoirs du Bouddha, du Dhamma et du Sangha, tous nous puissions demeurer dans le bien-être. C'est un souhait. C'est pas une dédicace, finalement. C'est un souhait. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une prière universelle, si je veux encore employer un terme chrétien. Quand, à la fin de la messe, on fait une prière universelle pour souhaiter que tous les êtres bénéficient de ceci et de cela. Donc c'est un souhait. C'est pas une dédicace, c'est pas un transfert de mérite.
Et pourquoi on le transfère aux défunts, donc dans le Theravada ?
C'est comme ça que ça se pratique. Si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne peut pas reprocher au Theravada de ne pas enseigner des pratiques qui sont liées à la voie du Bodhisattva, qui est spécifique au Mahayana, alors que cette voie du Bodhisattva n'est pas enseignée dans le Theravada. La voie du Bodhisattva, elle existe dans le Theravada, mais elle n'est pas enseignée, puisqu'on considère qu'il n'y a que quelques êtres exceptionnels qui, au cours de dizaines, de centaines, de milliers de kalpas, il y a quelques êtres seulement qui sont capables de la suivre. Donc elle n'est pas enseignée. Le Mahayana fait le pari que tout le monde est capable de suivre cette voie, et qu'en fait c'est la seule voie qu'il faut suivre. Mais ce n'est pas l'idée du Theravada au départ. Donc il y a des pratiques qui sont propres au Mahayana, propres à cette voie du Bodhisattva, qui est normal, si je puis dire, qu'on ne trouve pas dans le Theravada, puisqu'il n'enseigne pas cette voie-là. Mmh. Oui ?
Oui, je voulais savoir, le vipassana n'existe pas dans le Theravada ?
Ah bah si, au contraire.
Si,
si.
Parce que vous disiez que ça venait des États-Unis.
Non, non, non. Le fait d'associer systématiquement la pratique de metta, cette forme de pratique de metta à l'enseignement de vipassana, ça vient de Goenka, et particulièrement dans l'enseignement qu'il a transmis de vipassana aux occidentaux, et notamment, surtout, aux Américains. Mais Vipassana, bien au contraire, c'est la pratique reine dans le Theravada. Avec cette particularité que pour le Theravada, Vipassana permet de parvenir à l'éveil et à la libération. Ce qui ne sera pas le cas forcément dans les autres traditions du Mahayana. Qui vont plutôt considérer, je pense par exemple aux traditions du Tantrika, donc le bouddhisme tibétain ou japonais qui sont liés au tantrisme, Samatha et Vipassana sont préparatoires à la pratique des tantras. Et c'est les tantras qui mènent à l'éveil. C'est pas vipassana. Alors que pour le Theravada, vipassana mène à l'éveil. Mais c'est l'éveil libératoire de ce qu'on appelle l'arhat. C'est pas l'éveil du Bouddha.
On
parle du même éveil, puisqu'il n'y a qu'un seul éveil, mais cet éveil, selon qu'il est l'éveil d'un arhat ou l'éveil d'un Bouddha, s'accompagne de qualités accessoires, oui. On va dire. L'éveil est le même, il est forcément le même pour tout le monde. Il n'y a pas 25 000 manières de s'éveiller, il n'y en a qu'une. Mais si l'on parcourt la voie de l'arhat, on s'éveille et on se libère. Si l'on parcourt la voie du Bouddha, on s'éveille, on se libère, mais on acquiert aussi des qualités particulières, on acquiert l'omniscience, l'habileté dans les moyens, et donc des capacités d'enseigner et d'aider les êtres qui sont supérieures à celles de l'arhat. Donc ça, dans le Theravada, on le dit aussi. Ça va de soi que l'éveil d'un arhat n'est pas aussi utile aux êtres que l'éveil d'un Bouddha. Puisque l'arhat n'a pas de capacité personnelle d'enseigner. Il ne fait que transmettre l'enseignement qu'il a lui-même reçu. Alors que le Bouddha, du fait qu'il a un parcours tout à fait exceptionnel, a des capacités tout à fait exceptionnelles aussi qui lui permettent d'enseigner. C'est ça la grande différence. Oui ?
Alors, je vais peut-être dire une hérésie, une grosse bêtise, mais je ne sais pas. Mais...
Dites toujours, on verra.
J'avais cru comprendre que... Alors, je parle là du Bouddha Sakyamuni, donc je ne parle même pas de Theravada, je parle vraiment du Bouddha Sakyamuni.
Alors déjà, quand vous dites Bouddha Sakyamuni, vous parlez du Mahayana. Ah, bon, parce que dans le Theravada, on l'appelle Gautama.
Gautama, oui.
Rien que ça, déjà, c'est significatif.
Non, mais ça ne signifie rien du tout.
Si, si. Gautama, je peux vous assurer.
Non, mais j'en peux
pas. Allez-y, allez-y.
J'ai cru que comprendre de ce qui se dégageait du canon Pali, hein, je parle pas du tout de Mahayana, ça
ne
m'intéresse pas là, dans mon histoire. Je croyais qu'il avait atteint l'éveil, à la différence des yogis de son époque qui pratiquaient la méditation mais qui n'étaient jamais arrivés à l'éveil. Je croyais que le Gautama, lui, avait trouvé une voie particulière. En ayant comme acquis évidemment la méditation qu'on lui avait appris à l'époque, en reliant cette méditation, en l'occurrence les quatre établissements d'attention, enfin il en a fait ça, à la bienveillance. Et que c'est ça qui a fait qu'il s'est éveillé.
On n'évoque absolument pas Metta à l'occasion de son éveil. Je ne connais aucun texte du canon Pali qui évoque Metta comme participant à...
J'en ai trouvé un.
Ah bah, dans le canon Pali.
Alors écoutez, j'ai trouvé cet extrait...
Par rapport à l'éveil du Bouddha.
J'ai trouvé cet extrait, c'est un extrait très court, alors vous allez me dire que ce n'est pas Vipassana, mais c'est un des jhanas de Vipassana qui est relié...
Non, un jhana de Vipassana, ce n'est pas possible, puisque les jhanas appartiennent au samatha, et Vipassana, c'est l'autre méthode.
Je sais, mais je l'ai trouvé... je le sais, ça.
Hein. Oui.
Je ne fais pas de confusion, là. Hein. Je connais ça,
oui.
Écoutez, c'est dans ce livre, je cherchais là, je ne vois pas, qui s'appelle La Voix du Bouddha, qui est écrit par ce Célané là, qui est très connu là. Mahatera, je ne sais plus quoi, aux éditions Maisonneuve.
Nyanaponika Thera.
Oui.
Nyanaponika ou Nyanatiloka. Il y en a quelques-uns, oui, donc c'est pas un Singalais, hein, c'est un Allemand. Si c'est celui auquel je pense, ou un anglais.
Oui, c'est vrai, c'est un Allemand.
C'est un Allemand, donc c'est Nyanaponika. Nyanaponika Thera, c'est un des tout premiers occidentaux à avoir pris les vœux, les préceptes dans la tradition singalaise, mais il était allemand.
D'accord.
Et
donc il y a un passage que j'ai trouvé où il dit d'abord que la bienveillance metta s'amène à l'éveil alors que d'autres méditations n'y mène pas forcément, et il y a un endroit où il relie ça au jhana.
Alors, qu'il relie metta au jhana, c'est normal. Les quatre demeures de Brahma, c'est une pratique de jhana. Donc ça, c'est normal. Mais que metta mène à l'éveil, il y a une controverse actuellement depuis une quinzaine d'années entre des grands spécialistes du canon Pali, universitaires, mais jamais dans la tradition bouddhique on a dit ça dans la tradition Theravada, que Metta menait à l'éveil.
Ça, c'est... Tout ça,
ah oui, non, mais parce que c'est...
Avec Vipassana.
Vipassana seul mène à l'éveil. Vipassana seul mène à l'éveil. Et ce que j'ai dit la dernière fois, il y a deux mois, c'est que la plupart des textes bouddhiques du canon Pali disent que pour que Vipassana soit pratiqué dans les meilleures conditions, il faut aussi pratiquer les jhanas. Et dans les pratiques de jhana, vous avez les quatre demeures de Brahma, donc Metta, Karuna, Mudita et Upekkha. Et donc ça fait partie des textes que je voulais vous citer, vous montrer effectivement que la pratique de Metta et de Karuna s'inscrit dans un ensemble de pratiques, puisque je continue finalement ce que j'ai dit il y a deux mois. Il y a deux mois, je vous ai parlé du grand éventail de pratiques qui étaient à la disposition de tous. Donc il fallait jamais se focaliser sur une seule pratique, même si c'était Vipassana, parce que l'autre point important de l'enseignement du Bouddha, c'est de dire que pour qu'un phénomène apparaisse, il faut que les conditions de son apparition soient réunies, et donc que pour que la Vipassana soit pratiquée dans de bonnes conditions, il faut faire un certain nombre de choses auparavant, dont la pratique des préceptes, donc certaines pratiques de Samatha, et les quatre demeures de Brahma peuvent aider, justement, on va le voir dans certains textes, à permettre que Vipassana soit pratiquée dans les meilleures conditions possibles.
Et Samatha, c'est la concentration,
c'est... Samatha, c'est, oui, le calme, en fait. Le calme.
C'est préparatoire à Vipassana.
Alors, c'est complémentaire ou préparatoire, après ça dépend, il va y avoir différentes façons de présenter les choses, mais l'idée, si vous voulez, c'est pour pouvoir pratiquer Vipassana dans les meilleures conditions possibles, Vipassana réclame la capacité de voir ce qui se produit dans l'instant. C'est-à-dire cette capacité d'être vigilant et donc concentré sur ce qui se produit dans l'instant. Or, notre état d'esprit quotidien n'est pas concentré, n'est pas vigilant. Il est dans le bavardage, il est dans la dispersion, il est dans l'illusion, etc. Donc il y a la possibilité, si on pratique Vipassana 20 heures sur 24, comme on le fait dans la tradition de forêt, dans les monastères d'Ajamsha, quelles que soient les activités, aussi bien dans le fait de manger, que dans le fait de balayer la cour, que dans le fait de marcher, d'aller recueillir les aumônes, etc. Avec discipline, on pratique Vipassana, pas seulement dans l'assise sur le coussin, et vous dormez 4 heures par nuit, ça suffit. Là, vous pouvez, par cette pratique de Vipassana perpétuelle, arriver à développer la concentration nécessaire à une bonne pratique de Vipassana. Mais c'est extrêmement difficile, parce que ça veut dire qu'il faut le faire 20 heures sur 24. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, et si vous n'avez pas les capacités de développer la concentration, parce que cette concentration, on l'a pu se développer dans vos vies antérieures, n'oubliez pas que du point de vue du bouddhisme, on ne vit pas que depuis votre dernière naissance. Il y en a quelques centaines de milliers qui ont précédé. Donc vous avez pu aussi travailler pendant vos vies antérieures sur la concentration, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir une concentration qui apparaît relativement facilement dans Vipassana. Mais c'est rarement le cas. Donc dans ce cas-là, les samatas ont leur importance. Parce que les samatas, vous forcez l'esprit à se concentrer, vous vous exercez à la concentration, vous habituez l'esprit à la concentration sur des périodes plus ou moins longues. Et ces périodes de concentration plus ou moins longues, par répétition, vont vous permettre ensuite plus facilement de rentrer dans ce qu'on appelle la concentration dans l'instant. Parce que si vous n'avez pas cette concentration dans l'instant, vous ne pratiquez pas Vipassana. Vous laissez les idées passer, certes. Mais il y en a beaucoup auxquels vous ajoutez des bavardages, comme on rajoute des wagons à la locomotive. Et finalement, vous ne voyez pas ce qui se produit dans l'instant. Vous croyez. Mais vous ne le voyez pas réellement.
Parce qu'on adhère, quoi, on est collé.
Non, justement, c'est plutôt vous décollez de la réalité en permanence. Parce qu'il y a un phénomène qui se produit, hop, hop, vous partez dans vos délires. Et vous pensez que vous êtes en train de regarder toujours le phénomène, mais vous êtes en train de regarder le bavardage sur le phénomène. Le phénomène, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il a disparu. Et il y en a plein d'autres qui sont apparus entre-temps que vous n'avez pas vus. Parce que justement, vous n'avez pas suffisamment la concentration instantanée. Donc cette concentration instantanée, il n'y a pas deux solutions pour la développer. Soit vous pratiquez Vipassana 20 heures sur 24, soit vous pratiquez les samatas pour favoriser les conditions de cette concentration instantanée.
Les samatas se pratiquent par le retour à la respiration.
Alors samatas, vous avez 40 objets de méditation possibles, dont les quatre demeures de Brahma. Donc il y a quatre demeures de Brahma, Metta, Karuna, Mudita, Upekkha, plus 36 autres.
Mais ça, c'est dans le canon Pali.
C'est dans le canon Pali, et c'est dans cet ouvrage monumental qui est la Bible du pratiquant de la méditation, enfin, pardon, du développement de l'esprit, oui. Le Visuddhimagga.
Ça n'a pas été rajouté par la suite.
Ah, bien sûr que non. Non. De toute façon, vous avez beaucoup plus de textes dans le canon Pali sur la pratique de Samatha que sur la pratique de Vipassana. Oui. Sur la pratique de Vipassana, vous avez essentiellement le Satipatthana Sutta, oui. Hein, le Sutta sur les quatre établissements de l'attention, de Sati, présence d'esprit. Puis vous en avez quelques autres qui sont importants, comme celui qui précise comment pratiquer Vipassana sur la respiration, Anapana Sutta. Anapanasati Sutta, pardon, l'attention à l'inspire et l'expire, pour dire les choses comme elles sont. Puis vous avez d'autres textes qui l'évoquent, mais il y en a beaucoup plus qui évoquent les pratiques de Samatha, enfin ce qu'on appelle généralement Samatha, ce qui est présenté plutôt dans les textes sous le terme de Jhana, Dhyana en sanskrit, Jhana en Pali. Et donc dans ce cas-là, les quatre demeures de Brahma font partie des Jhana. C'est-à-dire que là encore, ces pratiques de développement de la bienveillance équitable et de l'empathie agissante ou active ne sont pas là pour provoquer en vous un sentiment vis-à-vis d'autrui, mais pour cultiver en vous des qualités qui vont favoriser votre éveil. C'est ça, c'est extrêmement important aussi.
Oui. Je ne comprends pas comment Karuna, parce que vous avez dit que c'était à agir, ça peut être l'objet d'un Dhyana, parce que Dhyana, c'est la concentration.
Oui, c'est exact. Bon, il faudra revoir ça plus en détail avec, avec Bouddha Gosa. L'idée, si vous voulez, c'est de créer, c'est pourquoi ça qu'on appelle, on appelle ça les quatre demeures de Brahma, ou les quatre pensées sans limite, illimitées, incommensurable. L'idée, c'est petit à petit de développer une pensée qui... Alors, les textes évoquent rarement vous, c'est plutôt les commentaires. Hein. On développe une pensée qui se dirige dans toutes les directions, qui englobe tous les êtres, et qui devient sans limite. Et c'est cette illimitation de l'esprit qui permet d'entrer dans le jhana. Donc après, on a quatre types de pensées, la bienveillance, l'empathie, la joie participative et l'égalité de traitement, qui sont à la base de l'esprit sans limite. Mais ce qui importe finalement, ce n'est pas ces quatre points de départ, c'est le fait que ça se manifestera sous la forme d'un esprit sans limite. Dans la pratique des jhanas, c'est cette dimension d'esprit sans limite qui va permettre la concentration d'accès dans le jhana. Le jhana, le principe des jhanas, c'est pas forcément très, très souvent évoqué. On prend un objet au départ, dont on va finir par créer une sorte de double mental. Donc ce n'est pas l'objet de départ qui importe, c'est l'objet mental, son image mentale sur laquelle on va se focaliser. Et cette image mentale va provoquer l'entrée dans le jhana. Et peu importe, finalement, les 40 objets de départ n'ont pas tellement d'importance. Ce qui importe dans les jhanas, c'est que ces objets de départ puissent créer une image mentale sur laquelle on va se concentrer suffisamment pour pouvoir entrer dans le jhana. Donc c'est juste un outil. Donc c'est ça aussi qui est difficile à comprendre, finalement, quand on parle des quatre demeures de Brahma, c'est que on pourrait avoir choisi d'autres types de pensées. La pensée en elle-même n'est pas importante pour ce qui concerne l'entrée dans le jhana. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, metta n'est pas évoquée que dans cette pratique des jhanas, elle est évoquée aussi comme pour elle-même. Pour elle-même, comme une qualité de l'esprit qui est favorable dans nos relations aux autres. C'est une qualité de la vie sociale, si je puis dire, metta. Mais on n'évoquera pas tellement dans les textes mudita ou karuna ou upekkha pour ça. Il y aura juste metta qui sera mis en évidence. Donc c'est pour ça il y a des emplois très particuliers de ces termes-là qui ne correspondent pas à l'idée qu'on s'en fait. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des jhanas parce que c'est extrêmement complexe et leur tourne. Je voudrais juste apporter quelques infos supplémentaires et revenir aussi à une mauvaise traduction d'un texte fondamental. Le texte dont je vous parlais tout à l'heure de Valpola Raoula, qu'il a traduit à la fin de son petit bouquin. Je suis sûr que quasiment tout le monde l'a lu ici, hein, parce que c'est vraiment un des bouquins de référence quand on s'intéresse au bouddhisme, et notamment au bouddhisme ancien. Donc lorsqu'il traduit ce texte du Metta Sutta, qu'il intitule « L'amour universel », il y a une phrase qui dit « Ainsi qu'une mère, au péril de sa vie, surveille et protège son unique enfant, ainsi, avec un esprit sans limite, doit-on chérir toute chose vivante, aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie. » Eh bien, cette traduction est fautive. La phrase qui dit « Ainsi qu'une mère, au péril de sa vie, surveille et protège son unique enfant, ainsi, avec un esprit sans limite, doit-on chérir toute chose vivante ?» Cette traduction est fausse. Le texte dit « Ainsi qu'une mère au péril de sa vie surveille et protège son unique enfant, ainsi, avec un esprit sans limite, doit-on chérir un esprit sans limite ?» C'est un contresens, mais c'est un contresens qui existe depuis plusieurs décennies, depuis un siècle en gros, et qui est à la base justement de l'assimilation de metta à l'amour. En fait, ce que le texte dit, c'est qu'il faut avoir pour ce sentiment de metta la même attention qu'une mère a pour son enfant unique. Donc ce n'est pas les êtres qu'il faut aimer. Ce n'est pas les êtres qu'il faut chérir. Il faut être attentif à sa pratique de metta. Comme une mère veille à son unique enfant. Et il faut développer metta comme une mère fait que son enfant se développe. Donc effectivement, c'est un contresens complet. Le problème, c'est que c'est la traduction la plus fréquente. Lorsque vous lisez la même traduction faite par Bhante Gunaratana, dans son ouvrage sur les jhanas, justement, qu'est-ce qu'il va vous mettre ? Tout comme une mère au péril de sa propre vie surveille et protège son unique enfant, ainsi devrait-on développer un cœur bienveillant, ou une pensée bienveillante, puisque généralement cœur ici, c'est ce que d'autres pourraient traduire par esprit, cœur-esprit. Hein. Un esprit bienveillant, sans entrave, à l'égard de tous les êtres vivants, etc. Mais ce n'est pas les êtres vivants qu'il faut surveiller, chérir, et auxquels il faut être attentif. C'est son cœur-esprit, c'est à son metta, en fait, qu'il faut surveiller comme son unique enfant. Donc c'est sur des textes comme celui-là, et un autre, qui est l'objet de nombreuses controverses, qu'on a évoqué le fait que metta puisse être la pratique suffisante pour parvenir à l'éveil. Mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord, et ce n'est pas ce que dit la tradition. Alors après, je voudrais évoquer d'autres textes. Donc, puisque metta revient assez régulièrement dans les textes du canon Pali, je voudrais évoquer un certain nombre de citations pour voir justement les contextes dans lesquels metta est évoqué. La première chose que j'ai vue, c'est un texte, donc c'est un emploi de metta de façon très ordinaire, dans la vie de tous les jours, ou dans un dialogue avec un brahmane qui subit des... quand on dit du mal des gens. Des calomnies, ce soir, plus ou moins. Hein. Puisqu'on lui dit qu'en fait, il récupère tous les impôts pour lui et qu'il donne rien à manger à personne. Voilà. Donc, ce sont des calomnies ou des... Des médisances. Voilà, c'était le terme que je cherchais. C'était les médisances. Et donc le Bouddha lui dit, si quelqu'un entrave les intérêts de tous ceux qui vivent auprès de toi, comme ça se passe, est-ce quelqu'un de bienveillant ou de malveillant ? Et donc bienveillant, là, c'est metta. Qui a une bienveillance vis-à-vis de toi, ou est-ce que c'est quelqu'un de malveillant? Bon, je vous passe sur le fait que le mot qui traduit malveillance, inimitié, rivalité, vient d'un mot qui veut dire la co-épouse. La concubine. Donc la concubine est caractérisée par sa malveillance. Ça fait partie des petites parenthèses amusantes de la société indienne. Donc ce quelqu'un est-il bienveillant ou malveillant? Bien évidemment, le brahmane en question répond qu'il est malveillant. Et le Bouddha continue. Chez quelqu'un qui est malveillant, est-ce qu'il y a l'habitude d'une pensée amicale ou inamicale? Évidemment, inamicale. Et chez quelqu'un qui a une pensée inamicale, est-ce qu'il peut développer des opinions correctes ou des opinions incorrectes? Réponse, des opinions incorrectes. Et là, ce qu'on voit qui est intéressant, après, donc, quelqu'un qui a des opinions incorrectes renaîtra dans l'état infernal ou le domaine animal, c'est-à-dire les états d'existence malheureux. Donc là, c'est un traitement de metta dans la vie ordinaire. Le problème, ce qui est intéressant, c'est de voir que metta est conditionnant. Metta ou son opposé, ou son absence. Hein. Si vous n'avez pas développé metta, vous allez développer des pensées malveillantes qui vont développer des opinions incorrectes, qui vont vous entraîner dans des états malheureux. Donc metta est un moyen d'échapper à ce cercle vicieux. Pour développer à l'opposé des pensées bienveillantes, qui vont permettre de développer des opinions correctes, qui vont permettre de connaître des états d'existence bienheureux, et donc de favoriser votre évolution sur la voie, de favoriser votre pratique. Donc metta, c'est un moyen de créer des conditions favorables autour de vous dans la vie ordinaire, comme dans votre vie spirituelle. C'est un outil. C'est pas forcément une fin en soi, mais c'est un outil parce que c'est une condition qui favorise le progrès. Ça, c'est une première chose. Alors, plus précisément, à propos justement des pensées qui peuvent ne pas s'arrêter simplement aux quatre qui sont habituellement cités, il y a un enseignement que le Bouddha donne à son fils, Rahula. Donc ça, j'aime bien, il y a deux grands discours à Rahula, j'en avais évoqué un à propos des préceptes. L'avantage, c'est que Rahula, c'est un enfant. Nous sommes tous très puérils encore, il faut bien l'admettre. Et donc les enseignements du Bouddha à son fils sont des enseignements très simples, mais très, très parlants. Donc c'est bien de les avoir en tête. Donc dans un discours que je réévoquerai peut-être plus tard, il replace ça dans un tout un cheminement, mais voilà ce qu'il dit à propos notamment de la bienveillance. Faites progresser, Rahula, la pensée de bienveillance, parce que si vous la faites progresser, n'importe quelle malveillance sera abandonnée. Faites progresser la pensée d'empathie, parce que si vous faites progresser l'empathie, n'importe quelle cruauté sera abandonnée. Faites progresser, développer la pensée de joie sympathique ou participative, parce que dans ce cas, aucun mécontentement n'apparaîtra. Faites progresser ou développer la pensée d'équanimité, parce que si vous la faites progresser, n'importe quelle aversion sera abandonné. Donc voilà aussi quatre façons, une façon autre, disons, d'aborder ces quatre types de pensées, c'est de les voir comme des contrepoisons. Hein? Rappelez-vous encore une citation que j'avais faite il y a deux mois et qui revient régulièrement, cette petite phrase, cette petite stance du Dhammapada qui résume l'enseignement des Bouddhas en disant « Abandonner les actions qui font du mal, développer ce qui est efficace, purifier son esprit, tel est l'enseignement des Bouddhas. » Et bien là, vous avez, en pratiquant metta, karuna, mudita, upekkha, non seulement vous faites progresser ce qui est efficace, mais en même temps ça vous permet de ne plus laisser de place à ce qui fait du mal. Il y a toujours cette idée dans ces actions qui relèvent du karma, on est dans des actions karmiques ici, que plus vous faites des actions karmiques ou des actions efficaces bienfaisantes, moins il y a de place pour les malfaisantes. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut développer ces qualités de façon illimitée. Parce que si vous développez ça de façon illimitée, il n'y a plus aucune possibilité pour que la malveillance se signale et apparaisse. Si vous le faites de façon restreinte, vous laissez de la place, au contraire, aux pensées contraires. Donc là, dans ce cas-là, metta s'oppose à la malveillance, l'empathie à la cruauté, la sympathie au mécontentement, l'équanimité à l'aversion. Et on ne s'arrête pas à ces quatre, on en rajoute deux. Pour dire que ce n'est pas uniquement les quatre demeures de Brahma, ça peut être inclus dans un ensemble plus vaste. L'autre, c'est, alors, je n'ai pas vérifié la traduction, c'est Mohan Vijayaratna qui traduit la saleté. Il faut développer la pensée sur la saleté, ça permet de développer, d'abandonner l'attachement. Mais il faudra que je vérifie le terme de saleté, il ne me plaît pas. Faut voir. Et puis le dernier, c'est la perception de la non-permanence, l'impermanence, la non-durabilité, qui permet d'abandonner la prétention orgueilleuse « je suis ». L'idée « ceci est moi ». C'est par l'impermanence qu'on met fin à l'attachement à l'ego. Donc voilà, c'est une autre façon, hein, donc là, de développer des pensées qui permettent de lutter contre leurs opposés, donc comme des contrepoisons. Un autre texte va préciser, comme le texte de Raoula, que en fait, le développement de ces quatre pensées conditionne le progrès sur la voie. Donc il est précédé d'un certain nombre de choses et il va permettre le développement d'autres choses. Donc généralement, je vous cite le texte qui est tiré du Majjhima Nikaya, où le Bouddha évoque auprès de ses bhikkhus qu'est-ce que c'est qu'un vrai samana. Samana, c'est celui qui fait des efforts. C'est ce qu'on traduit généralement par ascète, le mot ascète ayant la même signification, c'est celui qui fait des efforts, celui qui s'efforce pour progresser, celui qui bosse, quoi, celui qui travaille, qui fait ce qu'il faut. Et donc, la bonne définition, la définition de qu'est-ce que c'est qu'un vrai samana, le Bouddha dit d'abord, il faut supprimer un certain nombre de mauvaises pensées. Donc il dit, l'avide va éliminer l'avidité, l'hostile, l'hostilité, le colérique, la colère, le rancunier, la rancune, le rival, la rivalité, le jaloux, la jalousie, l'avare, le refus de partager, le dissimulateur, la dissimulation, l'hypocrite, l'hypocrisie, le méchant, les mauvais désirs, le crédule, les croyances erronées. Et une fois qu'il aura évacué déjà une partie de tout, sinon la totalité de toutes ces mauvaises pensées, de tous ces défauts qui salissent, qui avilissent, qui affaiblissent, qui mènent à la perdition et qui finiront par le faire souffrir dans les mauvaises destinées, alors il va pouvoir s'observer ainsi, purifié de ses défauts. Lorsqu'il se voit purifié de ses défauts, la joie apparaît. Lorsque la joie apparaît, vient le ravissement, piti. Le ravissement lui-même permet au psychisme de s'apaiser. Et quand le psychisme est apaisé, on ressent du bien-être, sukha, et ce bien-être permet à l'esprit de se concentrer intensément. Alors, il diffuse dans une direction un état d'esprit empli de bienveillance, d'empathie, de joie ou d'équanimité, et il se maintient dans cette attitude. Et de même dans une deuxième direction, dans une troisième, dans une quatrième, en haut, en bas, en travers, partout, envers tous comme envers lui-même, dans le monde entier. Et l'état d'esprit qu'il diffuse est ample, magnifié, incommensurable, amical, plaisant. C'est comme s'il y avait moi d'un étang à l'eau transparente, plaisante et fraîche, bordée de rives agréables, et qu'un homme venait souffrant de la chaleur, accablé, peinant, altéré, assoiffé, et quand il arriverait à cet étang, il pourrait étancher sa soif et chasser la chaleur qui le consume. Alors, pareillement, si un homme issu de quelque famille que ce soit, là c'est une critique par rapport aux castes, si un homme issu de quelque famille que ce soit accède au Dhamma Vinaya, c'est-à-dire à mon enseignement et à sa pratique, et développe ainsi la bienveillance, l'empathie, la joie et l'équanimité, il acquiert une grande paix intérieure. Et je dis qu'avec cette paix intérieure, il suit le chemin qui convient au vrai samana, aux vrais ascètes. Alors si cet homme accède, par la destruction des souillures dans la réalité présente, à la délivrance de l'esprit ou à la délivrance par la sagesse, et qu'il la connaît directement par lui-même, alors il devient un vrai samana. Et vous voyez comme la pratique des quatre pensées incommensurables se place entre deux choses. Ça, il y a d'abord la préparation qui permet la concentration, Et puis cette concentration permet le développement de ces pensées infinies. Et ces pensées infinies, parce qu'elles rendent l'esprit paisible, cette paix permet le développement de la vision des choses telles qu'elles sont et la délivrance. Oui.
Si je peux me permettre, c'était un peu ça que je voulais dire tout à l'heure.
Oui, mais sauf que là, c'est pas que méta.
C'est ça que je voulais dire, justement.
Ouais.
C'était pas que méta, c'est ça que je disais.
C'est pas ce que j'avais compris.
C'est la fusion de méta avec les autres pratiques.
Oui, alors je dirais pas la fusion de méta avec les autres pratiques, parce que là, vous êtes dans un parcours qui est un parcours progressif. Donc c'est l'accumulation ou c'est la succession des étapes plus que la fusion. Le terme de fusion dans le bouddhisme, ça marche pas trop. C'est pas tout à fait ça.
Pourquoi est-ce que vous dites que c'est Goenka qui a introduit la bienveillance?
Non, Goenka a introduit, comme plusieurs maîtres du XXe siècle, a essentiellement transmis la pratique de Vipassana seul. Mais lui, il a ajouté systématiquement la pratique de Metta en fin de session.
Mais c'est pas nouveau, ça.
Si, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait...
Metta, c'est déjà avant.
Metta n'est avant et pas après.
Avant et pas après, je n'ai pas compris. Là.
Dans la tradition, Metta est une étape préparatoire à la pratique et de début des pratiques des jhanas, qui elle-même est préparatoire à la pratique de Vipassana. Goenka le propose comme un complément ultérieur à Vipassana, et donc comme une dédicace de mérite. C'est pas du tout le même emploi, c'est pas du tout la même signification.
Oui, mais vous avez aussi dit, si je puis me permettre d'insister, vous avez aussi dit qu'il avait introduit la bienveillance en Occident, parce qu'il trouvait que les gens n'étaient pas suffisamment amis avec...
Oui, sans doute, ça fait partie de ce que des raisons pour lesquelles c'est des raisons qu'on évoquerait, oui. Que ce serait meilleur pour les Occidentaux, important de les développer parce qu'il reste ce sentiment de culpabilité qui les empêcherait de pratiquer. Oui, metta existait dans le bouddhisme, mais pas pour ça. C'est une façon... Je suis en train de vous expliquer qu'on est en train d'utiliser des techniques dans un objectif qui n'est absolument pas celui proposé dans la tradition. L'objectif metta dans la tradition n'est pas fait pour lutter contre la culpabilité. C'est l'éthique qui est fait pour lutter contre la culpabilité. C'est pas méta. Donc, Goenka, de ce point de vue-là, n'est absolument pas traditionnel. C'est un néo-bouddhiste, c'est un bouddhiste moderniste, c'est pas un bouddhiste traditionnel. Un texte que j'aime beaucoup, qui présente aussi un aspect très pratique de méta. Et puis, je crois qu'on va à peu près s'arrêter là, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Ce texte évoque la visite que le Bouddha fait à un groupe de trois samanas, trois ascètes, qui vivent dans la forêt, et dont le commentaire nous dit qu'à l'époque, ils sont déjà parvenus à l'éveil et à la libération. Donc c'est pas n'importe qui. Lorsqu'il s'approche de ces trois vénérables qui viennent le saluer, il leur demande, cela va-t-il bien? Comment se passe-t-il? Manquez-vous pas de nourriture? Non, ça va très bien, merci, tout se passe correctement. Nous ne manquons pas de nourriture. Êtes-vous en harmonie les uns avec les autres? Heureux ensemble, sans dispute, fusionnés comme de l'eau et du lait? Vous voyez-vous l'un et l'autre, les uns les autres, avec les yeux de l'affection? Assurément, Seigneur, répondent-ils, nous vivons en harmonie, heureux ensemble et sans dispute, fusionnés comme de lait et de l'eau, et nous nous voyons les uns les autres avec les yeux de l'affection. Et de quelle manière en êtes-vous arrivé là? Seigneur, dit-il, je pense, il est profitable pour moi, il est bien pour moi, de demeurer avec d'aussi bons compagnons dans la vie sainte. Et mes actions sont empreintes de métta envers ces vénérables, ainsi que mes paroles et mon activité mentale, visible aussi bien que cachée. Donc, il éprouve métta dans son esprit, il manifeste métta dans ses paroles, il manifeste métta dans ses actes, actes de pensée, de parole, de gestes, de corps, aussi bien visibles qu'invisibles. Et je pense ainsi, pourquoi ne pas rejeter mon propre état d'esprit pour vivre en accord avec celui des vénérables? Je rejette donc mon propre état d'esprit pour vivre en accord avec celui de ces vénérables, distincts restent nos corps, mais nos esprits ne semblent ne faire plus qu'un. Voilà une autre dimension de métta, hein, qui est tout simplement l'abandon de l'égoïsme. Quand je vous parlais d'équité, hein, ne faire plus qu'un avec tous les autres, n'avoir plus qu'un seul esprit égal à celui de tous les autres. Et ça, c'est un développement de métta qui est évoqué dans plusieurs textes par le Bouddha, surtout lorsqu'il évoque l'avenir du Sangha après sa disparition, pour être sûr que le Sangha ne disparaisse pas, pour éviter les disputes. Abandonner son propre point de vue, parce que c'est l'attachement à son opinion personnelle qui fait la dissension, qui crée la malveillance et les opinions incorrectes et tout ce qui s'ensuit. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'avais insisté il y a 2 mois. On insiste beaucoup, notamment à travers le Visuddhimagga, sur cette nécessité d'abandonner son point de vue personnel pour se référer à la tradition. Visuddhimagga, c'est le résumé de 1000 ans de transmission orale, de commentaires. Et donc, c'est la synthèse de ce qui a été transmis pendant 1000 ans par toute une succession, par des générations de maîtres et de disciples qui sont arrivés à définir ce qui est commun à tous les êtres. Toutes les étapes par lesquelles tous les êtres sont censés passer. Et donc on gomme tout ce qu'il peut y avoir de personnel, de trop samsarique, de trop égotique, pour arriver à définir quel est le courant du samsara auquel il faut échapper dans ce qu'il a de général à tous, de commun à tous, et ensuite le courant qui mène à l'éveil dans ce qu'il y a de commun pour tous. Et ça me paraît extrêmement important dans la tradition du Theravada. C'est pour ça qu'on n'évoque jamais le rapport de maître à disciple. Il n'y a toujours qu'un seul maître, c'est le Bouddha. Je vous l'avais dit aussi il y a 2 mois, les autres ne sont que des amis de bien. Ce ne sont pas des maîtres, ce sont juste des amis de bien. Des compagnons de route. Ils sont un petit peu plus devant, donc ils peuvent vous aider à parcourir la différence qu'il y a entre eux et vous. Mais c'est tout. Tous, vous êtes dans la même direction. Bouddha Saranam Gacchami. Je marche en ayant le Bouddha comme objectif, la bodhéité comme objectif. C'est ça. Bouddham Saranam. Saranam, c'est le refuge, on traduit ça généralement, le refuge. Mais en fait, c'est le point d'arrivée, c'est là où on va. Le refuge, il faut le comprendre comme ce qui est à l'abri du courant du samsara. Ce qui n'est pas touché par le courant qui nous entraîne dans le samsara. Il y a des textes qui parlent de l'île. Comment faire de vous-même une île? Comment faire de vous-même votre propre lampe? Comment faire de vous-même votre propre refuge? C'est pareil. C'est cette idée-là. Alors après, je ne peux pas résister au dernier texte. ça fait partie de ces textes qui sont amusants. Dans un autre texte qui s'appelle le récit de la scie, le Bouddha va évoquer, là encore, différentes manières de pratiquer metta, et l'origine de cet enseignement, les circonstances dans lesquelles cet enseignement apparaît, c'est à cause d'un moine qui est très proche des nonnes, et on fera exactement le même reproche au cousin du Bouddha, Ananda, d'être trop proche des nonnes, et donc, ce pauvre bhikkhu, quand on critique les nonnes, il se met en colère. Et les nonnes sont tellement pleines d'affection vis-à-vis de lui que quand on le critique lui, c'est les nonnes qui se mettent en colère. Et donc, quelques bhikkhus bien intentionnés rapportent le fait au Bouddha en disant « ça paraît pas être une bonne attitude, tout ça, et donc il serait peut-être bon que tu l'admonestes un petit peu ». Effectivement, le Bouddha le convoque et lui dit « est-ce que c'est vrai que ça se passe comme ça ?» Et l'autre admet tout à fait qu'effectivement, il se met en colère quand on critique les nonnes. Et donc, voilà ce que le Bouddha lui dit. Il ne convient pas que tu sympathises avec les nonnes en dépassant ainsi les bornes. Par conséquent, Paguna, c'est son nom, si quelqu'un critique ces nonnes en ta présence, tu dois abandonner cet élan profane, cette pensée profane, et tu dois t'exercer ainsi. Je ne laisserai pas mon état d'esprit s'altérer. Je ne proférerai aucune mauvaise parole. Je resterai amical, bienveillant, metta, sans aversion aucune. Voilà comment tu dois t'exercer. De plus, Paguna, si quelqu'un bat ses nonnes, en ta présence. S'il les frappe à coups de pierre, de bâton ou d'épée, là aussi tu dois abandonner cet élan profane, cette pensée profane, et tu dois t'exercer ainsi. Je ne laisserai pas mon état d'esprit se détériorer. Je ne proférerai pas de mauvaises paroles. Je resterai amical, bienveillant et sans aversion aucune. Voilà comment tu dois t'exercer. Et de plus, Paguna, si c'est toi que l'on critique face à face, si c'est toi que l'on bat, si c'est toi que l'on frappe à coups de pierre, de bâton ou d'épée, tu dois encore abandonner cet élan profane, cette pensée profane et t'exercer ainsi. Je ne laisserai pas mon état d'être s'altérer, mon état d'esprit s'altérer. Je ne proférerai aucune mauvaise parole. Je resterai amical, bienveillant, sans aversion aucune. Voilà comment tu dois t'exercer. Il y a plusieurs autres pratiques qui sont évoquées, que je passe. Et puis, le Bouddha évoque une anecdote. Il y eut autrefois, dans cette ville de Savatthi, une noble dame qui s'appelait Sage. Dame Sage jouissait d'une flatteuse réputation. Dame Sage est gentille, Dame Sage est douce, Dame Sage est paisible. Or, Dame Sage avait une servante appelée Noire. Elle était adroite, industrieuse, soigneuse. Cette servante eut l'idée suivante. Ma maîtresse jouit de la flatteuse réputation d'être gentille, douce et aimable. Mais ne cacherait-elle pas quelque irritabilité qui ne se manifeste pas tant que je suis soigneuse dans mon travail? Je vais la mettre à l'épreuve. Un matin, la servante Noire se lève tard. Dame Sage l'interpelle. « Dis-moi, Noire, quoi donc, madame? Pourquoi t'es-tu levée tard ?»« Pour rien, madame. »« Pour rien ?» Mécontente et irritée, Dame Sage fronça les sourcils. Noire pensa alors. « Oh, oh, il semble bien exister chez ma maîtresse une irritabilité cachée qui ne se manifeste pas tant que je suis soigneuse dans mon travail. Je vais la mettre un peu plus à l'épreuve. » La servante Noire, le lendemain, se leva plus tard. Et Dame Sage l'interpella. « Dis-moi, Noire, quoi donc, madame? Pourquoi t'es-tu levée plus tard ?»« Pour rien, madame. »« Pour rien ?»« Méchante servante qui s'est levée tard. » Mécontente et irritée, Dame Sage laissa sortir donc une parole de mécontentement. De nouveau, Noire pensa. « Oh, oh, il est maintenant avéré qu'il existe chez ma maîtresse une irritabilité cachée qui ne se montre pas tant que je suis soigneuse dans mon travail. » Je vais encore renforcer l'épreuve. La servante Noire se leva donc encore plus tard, et Dame Sage l'interpella de nouveau. Dis-moi, Noire, quoi donc, madame? Pourquoi t'es-tu levée encore plus tard? Pour rien, madame. Pour rien? Méchante servante qui s'est levée encore plus tard. Mécontente et irritée, Dame Sage prit la chevillette qui pendait à la porte et lui en asséna un coup sur la tête si fort qu'elle lui fendit le crâne. Alors la servante Noire montra au voisinage son crâne fendu et ensanglanté. « Voyez, mesdames, l'œuvre de la gentille, voyez l'œuvre de la douce, de la paisible, voyez comment, mécontente et irritée, elle a demandé à son unique servante pourquoi celle-ci s'était levée si tard et comment elle a pris la chevillette pour lui en asséner un coup sur le crâne si fort qu'elle lui a fendu. » Depuis ce temps, Dame Sage souffrit d'une mauvaise réputation. Dame Sage est violente, Dame Sage est brutale. Dame Sage est coléreuse. Eh bien, moine, de même, il y a des moines qui sont tout gentils, tout doux, tout paisibles, tant qu'ils n'entendent pas de paroles déplaisantes. Mais c'est lorsque les paroles déplaisantes les atteignent que l'on peut savoir s'ils sont vraiment gentils, vraiment doux, vraiment paisibles. Quand ils vous parlent, les autres peuvent le faire de 5 façons. À temps ou à contre-temps. En accord avec les faits ou en désaccord avec les faits. Gentiment ou durement. De façon sensée ou de façon insensée, avec amitié ou avec inimitié. Vous, vous devez vous exercer ainsi. Nous ne laisserons pas notre état d'esprit s'altérer. Nous ne proférerons aucune mauvaise parole. Nous resterons amicaux, bienveillants et sans aversion aucune. Nous diffuserons un état d'esprit plein de bienveillance sur cette personne, et en prenant le monde entier pour objet, nous y diffuserons un état d'esprit plein de bienveillance, ample, magnifié, incommensurable, amical et plaisant. Et même si de cruels brigands lui tranchaient les membres l'un après l'autre avec une scie à 2 poignées, celui qui laisserait l'aversion l'envahir ne mettrait pas mon enseignement en pratique. Si vous gardez constamment à l'esprit cette image de la scie, vous ne verrez plus aucune façon de parler grossière ou subtile que vous ne puissiez supporter. Gardez constamment à l'esprit cette image de la scie, cela vous sera bénéfique et cela vous donnera bénéfice et bonheur pour longtemps. Bon, bah, vous l'a prévenu. Hein. Voilà un petit tour de ce que je pouvais dire sur Metta, beaucoup plus que sur Karuna, hein, puisque vous l'aurez constaté. Enfin bon, vous ne l'aurez pas constaté, mais je vous le dis. Autant on trouve des textes nombreux et variés sur Metta, autant vous n'en trouverez aucun sur Karuna de la même manière. Donc c'est vraiment cette qualité de Metta qui est mise en valeur dans le Theravada. Alors si vous voulez en savoir plus, vous avez un chapitre entier dans le Visuddhimagga qui est consacré à la pratique de Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. C'est l'article, le chapitre qui s'appelle les attitudes saintes dans la traduction de Christian Maes, c'est le chapitre 9. Et la majorité du chapitre est consacrée justement au développement de Metta. Ça va de la page 327 à la page 346. Donc, vous voyez que ça fait une vingtaine de pages. Hein. Et il explique notamment comment développer Metta vis-à-vis de ses ennemis. Avec plein de techniques. Alors, par exemple, Gunaratana fait la même chose dans son chapitre sur Metta dans la méditation profonde. D'abord, envisager son ennemi en lui trouvant une qualité. Une qualité au moins qui mérite Metta. Hein. Ou parce qu'il est malheureux, etc. Enfin, vous avez des tas de façons de faire pour arriver à provoquer, à pratiquer cet développement de la bienveillance vis-à-vis de quelqu'un qui vous est inamical. Donc ça vaut le coup de regarder ça en détail parce que ça vous donne plein de façons très pratiques pour la vie quotidienne.
Est-ce que j'ai une question. En fait, l'idée, c'est pas de ne plus être en parle de la colère,
oui.
Madame Sage. L'idée, c'est pas de ne plus être en colère, c'est de développer une bienveillance
équitable,
une empathie, la développer suffisamment pour que ça soit plus fort
que la colère.
Que la colère.
C'est un point de vue, effectivement.
Enfin, j'essaie de comprendre, oui. Parce que le risque, parce que c'était ma question sous-jacente pendant votre explication, le risque, c'est de refouler,
non.
De faire comme si.
Non.
Parce qu'il y a beaucoup de ça.
L'expression qui est employée...
C'est tout à fait. C'est pire même que... Alors, quelqu'un qui explose.
Ça fait 15 ans que j'insiste.
Oui, on appelle le verset lapsiste. Ça encourage le lapsisme, finalement.
Non. J'insiste depuis 15 ans sur une chose. Le bouddhisme ne vous demande pas de lutter contre. Donc il ne faut jamais lutter contre les états d'esprit malsains. Il faut faire en sorte qu'ils ne durent pas, voire qu'ils n'apparaissent pas. La possibilité de parvenir à cette fin, c'est d'une part de comprendre leur mécanisme, de veiller, quand ils apparaissent, à ne pas les développer. Donc, en les observant, on les interrompt. La simple observation permet de les interrompre. Quand vous vous savez en colère, vous l'êtes déjà beaucoup moins. Mais il faut apprendre à se connaître en colère. Il faut lâcher prise dans ce cas-là, on pourra dire. Hein. Pas laisser faire la colère, mais lâcher prise de la colère. Et puis, après, il faut être attentif à ce qui conditionne la colère pour prévenir qu'elle n'apparaisse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans la pratique de l'octuple sentier, c'est ce qu'on appelle l'effort. Vayama. L'effort, c'est ce qui reconnaît les états d'esprit malveillants et qui les prévient. C'est ce qui reconnaît les états d'esprit bienveillants et qui les développe. C'est les quatre aspects de ce qu'on appelle Vayama, l'effort. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a effectivement l'autre chose qui est de dire, plus vous développerez les contrepoisons, moins votre esprit ne développera les poisons eux-mêmes. Parce que plus vous développerez les contrepoisons, moins ils auront de place, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais aussi vous déshabituerez l'esprit au poison. Parce que le problème, c'est nos habitudes de penser. Nous avons l'habitude de réagir violemment. Nous avons l'habitude de réagir égoïstement. Nous avons l'habitude de réagir de façon méprisante, etc. Si vous cultivez l'équité, si vous cultivez la bienveillance, si vous cultivez l'empathie, vous perdez l'habitude de l'égoïsme, vous perdez l'habitude de la malveillance. Donc il y a ces différents aspects de la pratique. Ils sont complémentaires. Il y a la connaissance, c'est toujours important. Il faut connaître le phénomène, il ne faut pas le fuir, il ne faut pas le refouler, il faut le voir tel qu'il est. C'est la même chose avec la mort. Tant que vous avez peur avec la mort, confrontez-vous à la mort. Parce que ce n'est que par la connaissance de la mort que vous n'en aurez plus peur. C'est pas en la fuyant que vous n'en aurez plus peur. C'est lorsque vous la connaîtrez pour ce qu'elle est. Et après, vis-à-vis de toutes les pensées négatives, cultivez les contrepoisons, parce que plus vous vous habituerez aux pensées positives, plus vous vous déshabituerez des pensées négatives.
Est-ce que aussi on peut l'idée de d'impermanence,
oui,
nous aide à désamorcer tout ça?
Bien sûr, puisque la colère ne dure que ce que vous la faites durer.
Que sur le quotidien, vous prenez les transports, c'est bondé, il y a des situations très énervantes.
Oui.
Le fait de penser à l'impermanence.
Ça aide, tout à fait.
D'accord.
Oui, tout à fait. Mmh. Oui, bien sûr. Mmh. Parce qu'encore une fois, le phénomène ne dure que ce que vous le. Enfin, ne dure pas. S'il dure davantage qu'un instant, c'est que vous le faites durer. Que tout phénomène ne dure qu'un instant.
Par l'attachement, en fait.
C'est ce qu'on appelle le baradage mental. Ouais. C'est que vous êtes en train de... J'ai vécu ça encore il n'y a pas très longtemps. Lorsque vous vous retrouvez dans une situation d'agression, vous pouvez rester des heures et des heures à avoir l'esprit d'escalier, continuer la conversation. Hein?
Ouais, l'escalade.
Voilà. Et là, en l'occurrence, l'agression, elle est finie depuis longtemps. Mais elle n'est pas finie dans votre esprit, parce que c'est vous qui l'alimentez.
Les fameuses histoires que vous avez racontées, les deux moines chinois.
Oui, les deux moines chinois qui traversent la rivière et avec la jeune femme qui souhaite la traverser sur le dos de l'un d'entre eux. Il y en a un qui dit certainement pas, moi j'ai ma règle me l'interdit. L'autre la prend, lui fait traverser la rivière, la dépose. Et puis 10 kilomètres plus loin, celui qui n'a pas voulu la prendre lui dit, tu te rends compte, t'as porté une femme sur ton dos, c'est interdit par la règle. Et l'autre lui répond, mais moi ça fait 10 kilomètres que je l'ai laissée, toi apparemment tu l'as toujours sur le dos. Voilà, bah c'est ça, effectivement. Penser à l'impermanence des phénomènes, ça permet de ne pas garder la jeune femme sur le dos.
De ne pas ruminer, quoi.
De ne
pas ruminer.
Ruminer, oui. Ouais. C'est le terme papancha. Papancha, c'est, le, voilà, c'est tout ce qui fait que vous ne voyez pas les choses comme elles sont, parce que vous êtes attaché à un phénomène et vous discutez. Vous discutez dessus. Et pendant que vous discutez sur ce phénomène qui a disparu, vous ne voyez pas tout ce qui se produit. C'est ça un des premiers empêchements d'un réel vipassana. Un réel vipassana, si vous voulez vraiment pouvoir être dans l'attention à ce qui se produit dans l'instant, eh bien il faut suspendre papancha. Et pour suspendre papancha, il faut cultiver la concentration.
Signifique.
Une dernière question, oui.
Pour la question de la dame,
oui,
à propos de metta, si ce que le chemin de pratique de métal, on cherche à supprimer l'ego sans l'intervention de l'ego, donc on pourra obtenir le métal de façon naturelle, hein, pas de retournement.
Alors on peut pas chercher à supprimer l'ego. Si vous cherchez à supprimer l'ego, il sera d'autant plus fort.
Non, sans intervention
l'ego. L'ego apparaît et disparaît à chaque instant, il faut simplement ne pas le reproduire. Il ne faut pas chercher à vouloir se débarrasser de l'ego. L'ego, il disparaît à chaque instant. Il réapparaît que si vous le voulez. Le jour où vous avez compris ça réellement, c'est le jour où vous êtes un Bouddha. Et donc là, il ne réapparaîtra plus du tout. Mais on ne peut pas faire que l'ego ne réapparaisse pas autrement qu'en le connaissant pour ce qu'il est. Encore une fois, le bouddhisme, c'est une religion de la connaissance. Il faut voir les choses. Il faut les expérimenter comme elles sont. Il ne faut pas lutter contre. Et metta n'est pas... Ça ne fait pas partie des qualités du Bouddha, metta. Ce n'est pas présenté comme une des qualités du Bouddha. Karuna, oui, mais pas metta. Hein? Karuna, oui, est présenté comme une qualité du Bouddha. Des qualités du Bouddha qui seraient proches de metta, mais qui est différente, c'est chaga, ce qu'on traduit parfois en Occident par la générosité, et qui en fait est la vertu d'abandon. Chaga, ça veut dire abandonner, ne rien retenir pour soi. J'en avais parlé dans la toute première séance, Eten, en présentant le geste du don, qui a les mains ouvertes et qui ne rien, retient rien. Mais on ne parle pas de la metta du Bouddha. Dans le Mahayana, on va dire que c'est la Mahakaruna, c'est metta et karuna en même temps. Mais dans le Theravada, dans le canon Pali, on n'évoque pas la metta. On évoque la karuna du Bouddha, mais on n'évoque pas la metta. Tellement. Metta, c'est plus un entraînement. C'est quelque chose à cultiver. Plutôt une condition pour quelque chose d'autre. Alors, il y a un texte que je n'ai pas là, mais je croyais l'avoir pris, mais en fait, je ne l'ai pas, où effectivement, le Bouddha explique que dès lors que vous avez un état d'esprit illimité, tous les petits karmas qui sont limités se perdent. Et donc, si vous avez un esprit de bienveillance illimité, tous vos petits actes karmiques de malveillance se noient et disparaissent. Parce que eux, ils sont limités. Et donc, dans un esprit illimité, jamais ils pourront fructifier. Jamais ils pourront se répéter, jamais ils pourront fructifier. Donc, si vous voulez pratiquer metta, selon la pratique traditionnelle du Theravada, il nous reste une demi-heure au lieu de trois quarts d'heure. C'est un état d'esprit donc de bienveillance équitable à manifester d'abord pour vous-même. Vous essayez de penser toujours que d'envisager ça dans le temps et comme dans l'espace. C'est-à-dire qu'il vous faut être équitable vis-à-vis de vous et bienveillant pour celui que vous êtes dans l'instant, pour celui que vous avez été, comme pour celui que vous serez. Pour tous ces petits mois qui apparaîtront, et quelles que soient les formes sous lesquelles ils apparaîtront, il faut que vous soyez d'une bienveillance équitable pour chacun d'eux. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit agressif ou pas, qu'il soit passionné ou pas, équité, bienveillante, pour tous vos petits mois successifs. Et équité, bienveillante, après que vous développez pour les êtres qui vous sont proches, et puis pour les êtres un peu plus lointains, et puis de plus en plus comme ça, jusqu'à englober tout l'univers. Bon, c'est pas, vous n'arriverez pas ça en une demi-heure, hein. Gunaratana évoque un point qui n'est pas forcément évoqué, enfin je crois que si, c'est évoqué aussi dans le Visuddhimagga. Il vaut mieux commencer, plus on élargit le cercle, par des personnes que vous pouvez visualiser. On parle de visualisation dans le tantrisme, ça existe aussi dans le bouddhisme Theravada, hein. Donc choisissez des personnes que vous connaissez pour pouvoir effectivement manifester cet esprit de bienveillance équitable. Donc le premier cercle, des gens qui vous sont bienveillants, après à des gens qui vous sont moins bienveillants, à des gens qui vous sont indifférents, à des gens qui vous emmerdent, et à des gens qui vous haïssent. Et au final, selon le texte du Metta Sutta, on évoque les êtres, toutes choses vivantes, faibles, fortes, longues, grandes, moyennes, courtes, petites, visibles, invisibles, proches, lointaines, nées ou à naître, que tous connaissent le bien de façon équitable. Et donc vous ne parvenez vraiment à développer cet esprit inimitable que quand vous englobez tous les êtres sensibles dans cette amitié, ce sentiment d'amitié bienveillante. Donc ça, c'est des jours et des jours de pratique, hein, pour parvenir à ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en un quart d'heure. Mais rien ne vous empêche de commencer.
Et donc, dans la pratique, ce n'est pas une réflexion méditative, c'est une visualisation. Qu'on n'est pas censé réfléchir en
bas. C'est pas une réflexion, il faut faire naître en soi ce sentiment, cette pensée de bienveillance équitable. Il faut l'éprouver, déjà vis-à-vis de soi, pour ensuite l'appliquer à d'autres objets. On est là dans une activité karmique avec un objet et un sujet, hein. On n'est pas du tout dans la vacuité, c'est pas du tout ça. On va pas se fondre dans un grand tout, on n'est pas tout amour dans un sentiment océanique. C'est absolument pas ça. C'est un esprit, sujet, qui développe une pensée vis-à-vis d'un objet. Et le jhana est fondé sur ce rapport de sujet à l'objet au départ. Mais bon, là, on ne pratique pas pour parvenir au jhana, mais j'insiste bien pour comprendre ce principe-là. Vous êtes un sujet qui développe un type de pensée qui n'est pas de l'amour, mais qui est cette bienveillance équanime vis-à-vis de toutes les manifestations de vous-même comme d'autrui. Et petit à petit, vous commencez par ce qui vous est le plus facile pour aller de plus en plus vers ce qu'il y a de plus difficile. Et puis après que vous avez atteint le plus difficile, vous allez jusqu'à l'incommensurable. Voilà. Mais c'est toujours vous qui diffusez une forme de pensée, un sentiment, une qualité de l'esprit qui n'existe pas dans l'ordinaire. C'est le sujet de la retraite de Pâques. Développer des qualités de l'esprit qui ne sont pas nos qualités ordinaires. Parce que cette amitié bienveillante, ce n'est pas quelque chose que l'on vit normalement, habituellement. Mais qui est là. Donc c'est à vous de la trouver. On doit marcher à contre-courant. Bon, bah, si vous voulez, vous y essayez. Sinon, vous pouvez essayer d'atteindre la concentration de l'instant pour pratiquer Vipassana. Ou la concentration tout court en travaillant sur le samatha. Au choix.